France Culture.
La curiosité sous toutes ses coutures.
11h, 11h30,
un jeudi sur deux,
sur Radio Campus Angers.
Bonjour à tous et bienvenue dans France Culture. Au menu, tous les 15 jours, l'actualité culturelle de l'Anjou et plus si affinité. Au micro, nous sommes 7. 7 chroniqueurs à fouiller, fouiner, dégoter les perles culturelles de la région. 7 dont la seule motivation est la curiosité. Alors, avec moi autour de la table aujourd'hui, Isabelle, qui rencontre Jackie Essirard, un artiste multifacette. Il est peintre, poète, romancier. Cécile nous partagera sa visite à la Collégiale Saint-Martin à Angers pour l'installation en place en ce moment intitulée Gravity. Et on commence avec vous Bénédicte et votre invité Anne Hénaud pour la grande rétrospective de l'année au Musée des Beaux-Arts d'Angers.
France Culture. La curiosité sous toutes ses coutures.
Le Neveu, c'est d'abord le nom d'une rue incontournable à Angers. Tous les Angevins la connaissent et la fréquentent, la rue piétonne qui dessert le musée Pincé et la FNAC. Mais qui connaît l'artiste qui lui a donné son nom, Jean-Eugène Le Neveu ? Bien peu de monde finalement. Alors aujourd'hui, le Musée des Beaux-Arts d'Angers met cet artiste en lumière. Anne Hénaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la commissaire de l'exposition. Et vous devez être fière parce que toute la presse nationale s'en fait l'écho depuis le 24 juin dernier. 260 œuvres exposées et un imposant catalogue pour accompagner l'exposition. Vous le dites dans l'exposition, c'est un artiste prolifique, reconnu par ses pairs. De son vivant, il a même été exposé au Musée du Luxembourg à Paris. Alors pourquoi l'a-t-on passé aux oubliettes ? Comment expliquez-vous sa disparition ?
Il y a plusieurs raisons qui sont liées à au fait qu'il soit moins connu aujourd'hui. D'abord, il appartient à cette génération des peintres dits académiques, officiels, voire pompiers, de la seconde moitié du XIXe siècle, les Bougreau, Cabanel, Jérôme, qui à l'époque moderne étaient un petit peu décriés. Voilà. Et donc souvent, on a opposé dans l'histoire de l'art les peintres académiques qui avaient les honneurs du pouvoir et les peintres impressionnistes qui étaient maudits, ou les artistes impressionnistes. Et donc, il a subi un petit peu ce désamour-là, entre guillemets. Il y a un autre sujet, c'est que lui est surtout un peintre décorateur. Il a fait beaucoup de décors civils, décors religieux, à Angers, à Paris, on oserait dire des mètres carrés. Et donc certains de ces décors ne sont plus visibles. Alors on pense évidemment au plafond de l'Opéra Garnier, l'Opéra de Paris, qui était son chef-d'œuvre, aujourd'hui masqué par la composition de Chagall. D'autres œuvres à Paris ont par exemple été détruites. Il y a des plafonds d'hôtels particuliers qui ont été détruits. Il y a aussi des décors religieux qui, avec le temps, se sont altérés. Et donc, tout cet ensemble fait que ces décors étaient moins visibles. Comme il a fait beaucoup de décors, il a fait moins de tableaux de chevalet qui a pu être collectionné par les amateurs, puisqu'il avait beaucoup d'activités. Et puis, c'est un artiste. C'était un personnage donc, qui n'était pas marié, qui n'avait pas d'enfant. Donc, certes, il avait une famille, des neveux, des nièces qui ont pu faire la promotion ou veiller à son héritage, mais il n'avait pas vraiment d'ayant droit qui ont pu le protéger. Donc tout c'est la conjonction en fait vraiment de cet artiste académique, de cet artiste décorateur et de ce personnage qui ont fait que il est un petit peu passé pas aux oubliettes, mais moins connu finalement.
Et puis un petit peu de malchance sans doute aussi.
Petit peu.
Alors parlez-nous, Anne Hénaud, de l'artiste Le Neveu, dans son lien avec la ville d'Angers.
Alors son lien est très fort avec la ville d'Angers. Donc il y est né en 1819. Mais au-delà de ça, toute sa vie, il a eu un lien très fort. Donc, il débute son parcours artistique à l'école de dessin. Donc, il faut imaginer que le directeur de l'époque, Jean-Michel Mercier, qui est également peintre, directeur du musée, repère très vite son talent et le soutient. Il l'incite ensuite à étudier à l'école des Beaux-Arts à Paris. Et la ville d'Angers va lui verser une bourse pour pouvoir aller étudier à Paris, comme elle l'avait fait une génération avant avec le sculpteur David d'Angers. Donc après, très rapidement, comme David d'Angers va donner des œuvres à la ville, au musée, pour enrichir. Donc, il obtient finalement le prix de Rome, il va en Italie, il revient. Et comme tous les artistes officiels, de peintres d'histoire, il va falloir avoir des commandes. Et sa première commande, elle est et angevine et religieuse, c'est le peintre Bodinier qui lui obtient cette commande. C'est la première composition pour la chapelle de l'hôpital d'Angers en 1856. Et c'est donc la bénédiction de la chapelle. Et tout de suite, il commence avec quelque chose de monumental, extrêmement grand. Et donc, vous voyez qu'il fait aussi des commandes pour la ville. Pour, à l'époque, au XIXe siècle, Angers se dénommait l'Athènes de l'Ouest. Et donc, il a participé à des grands décors, des monuments importants. La chapelle de l'hôpital, le plafond du théâtre après la guerre de 70, ou une composition historique au musée Pincé. Donc, il a aussi ces compositions qui, à Angers, sont visibles, à Angers, sont en bon état. Donc, voilà, il y a un peu cette chance. Et puis, alors, donc, je vous ai dit qu'il a fait des décors, et notamment le plafond du théâtre. Et donc, souvent, on dit qu'il a donné la composition. En fait, évidemment, il s'est entendu avec l'architecte Magne. Et donc, il l'a fait gracieusement. Et donc, à la suite de ça, le maire de l'époque a décidé que la rue Milton, qui était une nouvelle artère, qui passait sur l'emplacement de sa maison natale et qui rejoignait la place du ralliement, se dénomme rue Le Neveu. Et donc, c'est très rare d'avoir de son vivant une rue qui porte son nom. C'est vraiment un très grand honneur. Et en plus, avec le temps, après, eh ben, le musée Pincé, enfin, l'hôtel Turpin de Précy, comme on l'appelait à l'époque, eh ben, s'est retrouvé Le Neveu avec une composition de Le Neveu. C'est vraiment une sorte de boucle qui est bouclé. Et alors, pour aller même plus loin, il est mort à Paris. Il a été inhumé dans un premier temps au Père Lachaise. Et 2 ans après sa mort, un monument a été élevé dans la cour du musée, dans la cour du logis Barrault. C'est un monument qui a été élevé par souscription, par ses amis et parisiens et angevins. La ville a autorisé. Et donc, à la suite de ce monument, donc, qui était encore une marque de reconnaissance et d'hommage, eh ben, sa dépouille a été ramenée au cimetière de l'Est. Voilà, d'accord. Donc c'est vraiment un lien indéfectible. C'est vraiment extrêmement fort avec sa ville natale, même s'il a rayonné au niveau national et international.
Alors, les œuvres présentées proviennent de collections privées et publiques. Anneno, vous l'avez dit, c'est un infatigable producteur. L'œuvre de Le Neveu est monumentale par la taille et par la quantité. Parlez-nous de votre travail préparatoire à l'exposition.
Alors, je vous souviens très très bien, j'ai commencé le travail presque en 2019. Alors, le confinement m'a été très bénéfique pour pouvoir approfondir. Donc, j'ai travaillé un peu en cercle concentrique. Donc, je suis partie de nos collections, puisque je vous l'ai dit, grâce à la générosité du peintre et de sa famille, on a à peu près plus de 1000 œuvres de l'artiste, donc 800 dessins, mais également des peintures et des cartons préparatoires qui sont les dessins à taille réelle d'exécution. Donc je suis partie de nos collections, du travail aussi de bibliographie, de recherche dans les ventes. On connaissait certains amateurs, certains membres de la famille. Avec des collègues, on a refait de la généalogie pour retrouver des descendants. Et puis on a aussi travaillé avec les grandes institutions nationales qui avaient des œuvres. Donc ça, on le savait. Donc le musée d'Orsay qui nous a considérablement accompagnés. L'École des Beaux-Arts de Paris également, qui a notamment le prix de Rome. La Bibliothèque Nationale de France, le Bibliothèque Musée de l'Opéra qui dépend de la Bibliothèque Nationale de France, nous a beaucoup prêté. Et beaucoup de musées, alors Quimper, Nantes, Laval.
Parce que finalement, il a produit partout.
Il a produit partout. Enfin, ses œuvres se sont retrouvées ensuite dans les musées par des donations. Lui-même a donné des œuvres, par exemple, au Musée de Laval, ou par exemple, les œuvres qui se trouvent à Quimper. C'est au fil des ventes, évidemment, chez les amateurs. Donc, ces œuvres se retrouvent disséminées partout en France, aussi bien dans les collections publiques que privées. Alors, les collections privées, ce qui était intéressant, c'est qu'évidemment, on a retrouvé les descendants, alors sans mauvais jeu de mots, de ses neveux et de ses nièces. Mmh. Et donc, là, on a retrouvé des portraits de famille que l'on n'avait pas, des objets personnels, comme une table de peinture. Et puis surtout, ils avaient gardé de la correspondance. Et donc là, c'est de la correspondance inédite, parce qu'il existe de la correspondance, mais plus officielle, hein, de Le Neveu, aussi bien aux archives nationales, à l'Institut, ou à l'École des Beaux-Arts, ou de la correspondance avec Garnier. Mais là, c'est vraiment de la correspondance avec sa famille. Alors, des fois, c'est des questions d'intendance, mais parfois on peut voir un petit peu plus le personnage, et notamment dans son courrier, dans sa correspondance avec sa nièce élève Joséphine Berthaud, il lui donne beaucoup de conseils vraiment très pragmatiques sur la manière de peindre, et également un petit peu stratégiques pour voir comment animer les réseaux, comment se comporter, et du coup ça dessine vraiment un personnage. À travers ses correspondances, on voit aussi comment il aborde la photographie. Donc ça permet vraiment de mieux voir la personnalité et l'homme derrière le peintre, qui en plus pouvait avoir, quand on voit très bien dans les portraits et les photos, qu'il a un air un peu réservé comme ça. C'était un grand timide, et du coup il dégage cette manière austère. Et lui-même dit, quand il le disait à Joséphine Berthaud, quand il voyait ses photos, il lui disait, quand même je ne suis pas aussi sévère que ça. Donc voilà, entre ce qu'il projetait et ce qu'il était, comme ça peut souvent paraître, il y avait une petite distorsion.
Et en même temps, dans ses peintures, parce qu'il n'y a pas que des peintures monumentales, il y a aussi des aquarelles, des profils, et il y a énormément de sensibilité.
Oui, alors dans les dessins, c'est vrai que dans les dessins, alors c'est quelqu'un qui faisait beaucoup de dessins préparatoires, qui a copié beaucoup d'œuvres antiques, beaucoup d'œuvres de maîtres anciens, et donc là, il y a un côté très touchant, notamment dans les portraits d'enfants. Si on regarde tous les dessins qui sont préparatoires aux compositions de la bénédiction de la chapelle, c'est vraiment, on a même le nom des enfants, la couleur de leurs yeux, la couleur de leurs cheveux, enfin, il y a un côté vraiment très humain. Et puis c'est vrai que les aquarelles qu'il fait en Italie, donc que des aquarelles de site, il n'y a pas de personnage, donc c'est Pompéi, c'est Rome, c'est Venise, c'est Milan, et donc, ou des maîtres anciens, et donc là c'est vrai qu'il y a une fraîcheur, évidemment, il y a cet intérêt pour la lumière, évidemment, méditerranéenne, méridionale, hein, même si la lumière est belle en nos joues, elle est différente à Rome, et donc il y a un côté extrêmement étonnant, frais dans ces aquarelles. Donc on en montre un certain nombre dans l'exposition, mais il en existe beaucoup d'autres. Et c'est vrai que là, c'est moins formel que dans, évidemment, les tableaux de salon ou les peintures monumentales qui ont des factures, voilà, qui ont l'air plus ouais, classiques.
Alors, le clou de l'exposition, c'est quand même ces grands laits qui sont exposés au premier étage du plafond de l'Opéra Garnier. Et c'est un artiste incroyable, mais en même temps, la postérité a été cruelle. Et vous l'avez dit tout à l'heure, le ministre de la Culture, André Malraux, avait fait recouvrir le plafond de l'Opéra Garnier à Paris. Et puis dans l'escalier du Louvre, j'ai lu également qu'on a fait disparaître le neveu sous du papier peint qui imite la pierre.
Oui, donc dans l'escalier d'Arion au musée du Louvre, en fait, il avait fourni les modèles peints qui ont ensuite été faits en mosaïque. Donc c'est les mosaïques qui ont été recouvertes d'enduit. Donc là aussi, c'était un décor assez étonnant et qui, avec le temps, a été un petit peu moins apprécié. Et c'est vrai que à la fin de l'exposition, comme vous le dites, alors on évoque ce que pouvait être ce grand plafond de l'Opéra de Paris. Il faut savoir que Garnier a vraiment choisi le neveu. Alors, ils s'étaient rencontrés quand ils étaient pensionnaires à l'Académie de France à Rome. Et le Garnier, donc, il a vraiment décidé tous les peintres, tous les sculpteurs qu'il voulait choisir. Donc, c'était certes ses amis, mais il avait un talent d'organisateur. Et donc, il explique, il justifie le fait qu'il confie à son ami le plafond de l'Opéra de Paris, parce qu'il considère que c'est le seul qui peut faire un grand plafond plafonnant qui s'ouvre vers le ciel avec ses inspirations baroques.
Est-ce que le neveu avait déjà fait le plafond du Théâtre d'Angers ?
Alors non, il fait en premier, le premier plafond qu'il fait, c'est le plafond de l'Opéra Le Pelletier. Là encore, c'est Garnier qui lui obtient la commande, mais c'est une version plutôt classique, antiquisante. Ensuite, il fait le plafond de l'Opéra Paris, et là, c'est une grande composition, et c'est après qu'il fait le plafond du Théâtre d'Angers.
Anneno, merci.
Merci à vous.
Alors, peintre du monumental, Jean-Eugène Leneveu retrouve sa notoriété le temps d'une rétrospective inédite. C'est jusqu'au 8 janvier prochain au Musée des Beaux-Arts d'Angers. Une muséographie très soignée, des panneaux participatifs très bien faits pour comprendre les techniques de dessin, la mise au carreau ou le poncif, ou pour tout savoir, car c'est très très bien expliqué, tout savoir sur le prix de Rome et ses enjeux. Si vous voulez découvrir toutes les facettes de l'œuvre de Leneveu, accourez, allez sur le site du Musée des Beaux-Arts pour organiser votre visite. Et il y a notamment un podcast avec le premier épisode sur l'artiste Leneveu qui vient de sortir aujourd'hui, il me semble. Tout de suite en musique, on écoute Thomas Dutronc avec sa chanson. Quelle est sa chanson ?
Demain.
Sa chanson Demain. Thomas Dutronc passe le 19 novembre à Trélazé.
Demain j'arrêterai, demain je m'y mettrai, je vois rien, je rêve à la fenêtre. Un jour, faudrait que je m'y mette. Mais y'a de la vie tous les soirs, y'a des filles dans les bars. Allez viens, demain sera trop tard. Y'a toujours une petite fête, promis demain j'arrête. Mais ce soir, la nuit sera sans fin. À l'été, à la vie, au soleil et aux filles, je veux lever mon verre à enrouler par terre. Je rejoins prévu la folie et l'ivresse en chantant dans les rues. J'oublie toutes les promesses. Demain j'arrêterai, demain je m'y mettrai.
café en terrasse. Je suis bien, je regarde la vie qui passe. Et pourquoi faire aujourd'hui ce que je pourrais faire demain? Vive la vie, comprends comme elle vient. Alors j'appelle mes potes, ça te dirait qu'on sorte. C'est ce soir, demain sera trop tard.
Et maintenant, une plongée dans un monde aquatique ou dans les nuages avec vous, Cécile.
C'est avec Graffiti à la Collégiale Saint-Martin à Angers que vous plongerez dans un univers hors du commun. Graffiti, l'œuvre de Yann Nguema, c'est de l'art numérique, une sculpture cinétique comme il l'a défini lui-même. Alors évidemment, quand j'ai dit sculpture cinétique, j'imagine que personne n'a rien compris.
Ben non, c'est un peu court. On attend un petit peu plus, Cécile.
Vous entrez dans la Collégiale Saint-Martin, donc je vais vous décrire l'œuvre plutôt. Vous entrez dans la Collégiale Saint-Martin, dans l'obscurité, et des voilages très légers sur lesquels sont projetées des lumières, des images, se soulèvent, redescendent, ondulent, au rythme d'une musique très calme. C'est comme des vagues, des nuages ou même des méduses. Chaque visiteur va y trouver son univers en fait. En tout cas, c'est très poétique, c'est vraiment une atmosphère qui invite au rêve et à la contemplation. D'ailleurs, il y a même des transats.
Alors concrètement, ça marche comment ?
Eh bien, on va d'abord parler de la phase de création de l'œuvre, qui est beaucoup moins glamour que ce que l'on voit. N'imaginez pas l'artiste de l'époque romantique dans son atelier avec des pinceaux, de la terre, un joyeux désordre. Non, Yann Nguema, il travaille sur son ordinateur et code matin, midi et soir. On l'écoute nous en parler.
Ça, c'est la caractéristique des arts numériques modernes. Tout est fait à partir de codes, donc de mathématiques, et d'aléatoires gérés par des algorithmes. Et l'idée, c'est d'arriver à tirer de la poésie et du sensible à partir de quelque chose de très rigoureux et très mathématique. C'est un peu le cœur de mon travail. Je dis, si tu savais le nombre d'heures que j'ai passé à écrire, je passe toute ma journée à réfléchir, à écrire, à faire des opérations. Et au final, ça disparaît. Même si c'est le cœur de mon travail, c'est pas ce que je revendique. Les gens partent avec des images, de la musique, quand ils rentrent chez eux. Et cette partie très technique, au final, elle reste dans mon atelier. Je peux même pas en parler à grand monde parce que c'est quelque chose de pas très accessible, pas très fun, voilà.
C'est donc les chiffres au service du rêve. Yann Nguema ne revendique donc pas la technique, mais la poésie. Et pourtant, tout est géré par des ordinateurs et des algorithmes. À commencer par les ventilateurs qui sont en dessous de ces grands voiles et qui leur donnent leur mouvement ascendant, descendant. La musique, les images et les lumières qui sont projetées ou généré de manière aléatoire. Mais nous ne nous y trompons pas, c'est un aléatoire maîtrisé, étudié. Il y a 6 tableaux, 6 périodes différentes, et le dernier tableau que vous verrez est interactif. Le visiteur peut lui-même créer le mouvement en jouant en fait avec une petite borne qui est à l'entrée de la Collégiale Saint-Martin.
Alors qu'est-ce que c'est son parcours à Yann Nguema ?
Alors Yann Nguema, c'est un autodidacte en fait. Il a commencé par la musique avec le groupe Ézéchiel. Et puis très vite, dans ce groupe de musique, il a commencé par s'intéresser aux pochettes, donc au graphisme, aux images, puis aux clips. Donc on avait déjà des images qui bougeaient au-delà de la musique et enfin aux productions numériques. Donc il a évolué tout ça. Il a toujours utilisé toutes ces techniques en même temps, c'est sa caractéristique, mais toujours avec un regard artistique.
Quand j'ai commencé à travailler avec l'outil informatique, c'était il y a 25 ans, les images générées, qu'on appelait les images de synthèse, étaient encore très maladroites, les personnages glissaient sur le sol, leurs pieds n'étaient pas en synchro avec le sol qui se déplaçait. Et à l'époque, le reproche qui était souvent fait aux images numériques, c'était qu'elles manquaient de sensibilité. Et moi, jeune étudiant, déjà à cette époque-là, je me disais, mais en fait, c'est qu'un outil, on peut essayer de mettre de la sensibilité en créant avec l'outil numérique. Et depuis, j'essaie justement de travailler en ce sens, de travailler avec l'électronique, la technologie, le code informatique et de générer du sensible avec.
Et voilà, et depuis une dizaine d'années, Yann Nguema se consacre entièrement à sa démarche personnelle de création. Alors si vous voulez voir d'autres parties de son travail, il a notamment été appelé pour la mise en image de la cathédrale de Lyon lors de la fête des Lumières. C'est absolument bluffant. Gravity, cette œuvre a été créée en collaboration avec Arnaud Doucet, spécifiquement pour la Collégiale Saint-Martin, et dit-il très inspiré par ce lieu magique qu'il aime beaucoup, dans lequel il était déjà venu auparavant. À noter que la musique, qui elle aussi a été créée pour l'occasion, c'est sur le thème de la nature par Joanne Guillon, est très très belle.
Alors, cette exposition s'appelle Gravity. Elle est ouverte jusqu'au 31 décembre, du mardi au dimanche de 13 à 19h. N'hésitez pas à aller sur le site de la Collégiale Saint-Martin pour organiser votre visite. Il faut noter, le dimanche 27 novembre à 16h, il y aura une rencontre avec l'artiste. Et on est toujours sur France Culture, Radio Campus. On écoute Vanessa Paradis avec Ilia.
Il y a là la peinture des oiseaux, l'envergure qui lutte contre le vent. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les fissures fermées, les serrures comme envolées, les cerfs-volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Il y a là là là, si l'on prenait le temps, si l'on prenait le temps. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Il y a là les mystères, le silence ou la mer qui lutte contre le temps. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les murmures, un soupir, l'aventure, comment mêler les cerfs-volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. On les regarde telles qu'elles pourraient être, se disant pourquoi pas.
La palette de couleurs.
On est sur France Culture, un mercredi sur deux, en direct à 17h, rediffusé le dimanche à 11h30. Et maintenant, on écoute Jackie Essirard, artiste multifacette, avec Isabelle et Bénédicte.
Isabelle, on a rencontré ensemble Jackie Essirard, un artiste éclectique.
Oui, et notre invité a une actualité foisonnante que je vous invite à découvrir, Marie. Jackie Essirard, bonjour.
Bonjour.
Vous n'êtes pas là par hasard, Jackie Essirard. Vous êtes peintre, graveur, romancier et poète, et vous avez une actualité chargée pour cette rentrée. Vous publiez un livre et vous présentez une exposition de peinture à la galerie 377 de Villevêque, aujourd'hui rive du Loir en Anjou. Vous y proposez aussi quelques livres d'artistes. Bon, évidemment, il nous faudrait plus d'une émission pour faire le tour de vos multiples talents. Aujourd'hui, on va s'attacher à la peinture et aux livres d'artistes. Commençons par les livres d'artistes. Pour les non-initiés, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un livre d'artiste ?
C'est un livre, déjà, et qui relie deux artistes qui font ensemble une production. Un artiste qui écrit et un artiste qui peint ou qui grave, qui dessine. Donc c'est en général un livre qui est tiré à peu d'exemplaires, au maximum 50. C'est un livre d'art aussi.
Donc c'est un livre qui naît d'une rencontre.
Oui, c'est d'un partage.
Un partage. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ou nous raconter comment ça se passe à l'atelier de Villemorges, puisque j'ai cru comprendre que c'était le lieu de rencontre des artistes?
Alors, à l'atelier de Villemorges, c'est chez moi. Donc il y a un petit peu de matériel, mais pas trop. Ce n'est pas une imprimerie, ce n'est pas une maison d'édition classique. C'est un peu un jeu de rendez-vous entre des gens qui se sont rencontrés peut-être quelquefois par hasard, quelquefois par affinité, et qui ont décidé de faire quelque chose ensemble. Et moi, c'est le livre d'artiste, soit j'écris, soit je peins. Donc c'est le meilleur endroit, c'est mon domaine de prédilection pour rencontrer les gens.
Et vous ne faites jamais les deux à la fois?
Non.
Dans un même livre d'artiste?
Non, parce que je n'arriverai pas à me reproduire. En fait, une fois que j'ai fait un dessin, je ne peux pas l'expliquer par un texte, puisque le texte, il serait de trop, quoi.
Et dans un livre d'artiste, il y a beaucoup de dessins ou de peintures?
Non. En général, comme ce sont des originaux, il y a, pour un livre de 4 pages de texte, il y a une gravure ou une peinture.
Et est-ce que le travail se fait ensemble, entre le poète et le peintre?
Alors ça dépend. Bon, moi j'aime bien qu'on me donne un texte et ensuite me laisser libre de faire ce que je veux. Bon, ça prend un certain temps, quelquefois ça prend un mois et quelquefois ça peut prendre une année. En général, le poète me confie son poème et ne voit le résultat que lorsque le livre est terminé. C'est très rare quand il intervient dans ce que je veux présenter. En fait, chacun est libre de faire ce qu'il entend avec le travail de l'autre. Mais bon, il faut respecter le travail de l'autre, bien sûr. Et puis bon, il faut se connaître un petit peu, quoi. Il faut être en affinité.
J'ai une question pour vous, Jacky Essirard. En fait, peintre ou écrivain sont des deux activités assez solitaires. Est-ce que c'est le moyen pour vous de relier de talents?
Alors, oui. C'est vrai que lorsqu'on est devant un tableau, devant un dessin, bon, on est tout seul. Et puis on n'aime pas avoir quelqu'un dans le dos, hein, pour surveiller par-dessus l'épaule ce qui se passe. Bon, quand on écrit, c'est pareil. Bon, on écrit seul. Ce sont des domaines de solitude, et le partage intervient après. Bon, moi, j'ai la chance de faire de la musique, donc ça me permet aussi d'avoir une bande de copains avec qui je fais de la musique. Donc, bon, je ne suis pas un grand solitaire. Mais le livre d'artiste, c'est une rencontre de deux solitudes. C'est-à-dire que chacun a un domaine, et tout d'un coup, bon, les domaines se rejoignent, et le domaine de chacun s'augmente, hein, du domaine de l'autre. Voilà, et le livre, c'est ça. C'est qu'en fait, on crée un domaine plus grand pour chacun.
Est-ce que vous avez un thème pour chacun des livres?
Ah oui,
au départ,
sûr. Oui. Oui, chaque livre est différent, quoi. Par contre, je n'abandonne pas mon style de peinture ou de dessin ou de gravure. Et le poète, il ne change pas son style de poésie en fonction de ce que je vais éventuellement faire.
Et vous pouvez nous donner des idées de thèmes qui seront présentés lors de l'exposition?
Oui, alors, bon, en fait, c'est une histoire qui a maintenant 20 ans. Donc je ne vais pas présenter tous les livres depuis 20 ans, parce qu'il y en a une soixantaine. J'en ai choisi certains qui seront sous vitrine ou qui seront présentés sous cadre. Donc j'ai travaillé avec beaucoup de poètes. Hein. Bon, sur les 60, j'ai travaillé au moins avec 45 poètes, quoi. Donc ça va de poètes très connus comme Guinevic à des poètes qui sont quasiment inconnus, mais avec qui je suis en amitié. Donc en fait, je ne fais pas des livres de bibliophilie, je fais des livres de rencontres.
Et est-ce que on peut savoir comment vous les diffusez, vos livres d'artistes?
Alors déjà, bon, j'en fais très peu d'exemplaires, et je fais 16 exemplaires. Et on termine le partage en se partageant les livres en deux, c'est-à-dire que chacun en a 8. Donc moi, j'en ai que 8 à disposition. En général, j'en donne ou j'en échange. Je fais très 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 peu de salons. En fait, mes livres d'artistes, ils circulent avec d'autres artistes, d'autres poètes, mais bon, il y en a très peu qui partent dans le commerce.
Alors venons-en maintenant à votre exposition, Jacky Essirard. Vous proposez une série de gouaches et d'acryliques récentes. Comment travaillez-vous, Isabelle?
Alors moi, ce que j'ai vu, c'est que votre peinture est très rythmée. Il se dégage à la fois une harmonie de couleurs et une superposition de motifs graphiques. Et quelles sont vos sources d'inspiration?
Alors, pour moi, la peinture, c'est de l'écriture aussi. Donc, mon point de départ, ce sont des signes. Ce n'est pas du graphisme, ce sont plutôt des signes calligraphiques, mais inventés. Bon, c'est-à-dire que ça correspond à une respiration. Donc, il y a des envolées, il y a des blancs, il y a des ratés, il y a tout, quoi.
C'est un peu musical ?
Alors, c'est, oui, chorégraphique même.
Pour chorégraphique.
Certains, pour certains, c'est chorégraphique. Mais en définitive, c'est pas non plus voulu. Je pars pas sur un projet. Je pars pas sur un projet. La plupart du temps, bon, je pars en aveugle. Et c'est la peinture qui se fabrique elle-même. Bon, c'est un peu la même chose sur les livres. Hein. Le livre, on le commence, mais on ne sait pas trop comment il va finir. Quelquefois, c'est le livre qui prend la main sur le narrateur. C'est pas... Et en peinture, c'est un peu ça aussi.
Et donc, ces jours-ci, en plus, vous publiez un livre, « La fille du Zès » aux éditions Sans Escale. Écriture et peinture ne sont jamais loin chez vous. Jacky et Sirard, quel est le mode d'expression dans lequel vous vous sentez le plus créatif ?
Ah, les deux. Les deux, mon général. Non, mais bon, ce que je ne peux pas dire en écriture, je le dis en peinture. Et ce que je ne peux pas dire en peinture, je l'écris. En fait, bon, en écriture, j'écris aussi de la poésie. Donc, ce sont des textes courts. On peut dire que ça correspond à des gouaches en peinture, puisque bon, les gouaches, en général, sont aussi des expressions assez courtes. Les acryliques, c'est un travail un petit peu plus élaboré. Disons que ça correspond à des nouvelles. Après, si j'écris des livres de 1000 pages, bon, ça peut correspondre toute une peinture de fresques, etc., des grands formats, quoi. Mais c'est la même chose pour moi. Je peins ou j'écris, mais je ne fais pas les deux à la fois. En général, il y a des périodes d'écriture, des périodes de peinture.
Et ça se passe dans le même lieu, toujours à l'atelier de Villemorges ?
Ça se passe au même endroit, oui.
Au même endroit, d'accord.
J'occupe énormément de place.
Jacky et Sirard, merci.
Alors, pour voir l'exposition, rendez-vous Galerie 377, Place Amar à Villevêque, aujourd'hui Rive du Loir en Anjou. C'est du 8 au 23 octobre tous les week-ends de 14h30 à 18h30.
C'est la fin de ce Franche Culture. 30 minutes de culture tous azimuts en Anjou. Merci à vous, auditeurs de Radio Campus, pour votre écoute. Retrouvez-nous pour la rediffusion de l'émission dimanche prochain, 11h30, et toujours le mercredi en direct, un mercredi sur deux, en direct à 17h. Surtout, si vous avez aimé notre émission, n'hésitez pas à partager notre podcast et nous liker sur les réseaux sociaux.
Une émission à retrouver sur le www.radiocampusangers.com.